Before the Backseat, un petit moment qu'on se réserve avec notre partenaire du jour. Notre partenaire aujourd'hui, c'est le Clémy. Le Clémy, c'est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est un organisme de l'éducation nationale qui s'occupe de la formation des élèves à tous les niveaux et partout en France en matière d'éducation aux médias et à l'information. Et vous vous en doutez, même si vous en avez jamais entendu parler, vous vous doutez bien que l'éducation aux médias et à l'information, c'est giga important pour former des citoyennes et des citoyens. Dans une boutique comme l'éducation nationale, avoir une éducation aux médias qui fonctionne, c'est absolument central. Et c'est exactement ce à quoi s'attache le Clémy, qui est notre partenaire du jour. Qu'est-ce que fait le Clémy notamment? Ils font plein de trucs, mais notamment la semaine des médias à l'école. La semaine des médias dans l'école qui aura lieu cette année à la fin du mois de mars. Ce sera du 24 au 29 mars, la 36e édition de la semaine de la presse et des médias à l'école. Le thème cette année, ce sera « Où est l'info ?». Voilà, vous voyez le thème sur l'affiche. Ça, c'est l'affiche officielle, je ne l'avais même pas vue. Elle est trop bien, elle est trop trop bien. Où est l'info ? Et si vous êtes enseignante ou enseignant et que vous êtes en train de nous écouter, Inscrivez-vous pour la semaine de la presse et des médias à l'école cette année. On va essayer de vous donner envie de faire ça au cours de ce before de Backseat. La semaine de la presse et des médias à l'école, c'est aussi l'occasion pour l'école d'aller dans les médias. Pour des élèves, pour des étudiants, d'aller avec leurs enseignants, de faire des travaux en classe pour préparer et s'interroger sur comment fonctionnent les médias, comment est-ce qu'on fabrique l'information. Et nous, Backseat, on est un média. Évidemment, on est un média, on est même très fiers. Et donc, dans la discussion avec le Clémy sur ce before, on s'est dit, mais est-ce que ce serait pas intéressant qu'on fasse nous aussi l'exercice d'ouvrir nos portes à des scolaires en leur disant, bah, venez regarder Backseat, comment ça fonctionne, comment on fait une émission comme Backseat, etc. Et on est même allé plus loin dans le délire méta parce qu'on a proposé à des écoliers, en fait, de venir sur notre plateau pour faire un travail d'éducation aux médias. Donc, on va en parler avec Fiona et César. Un tonnerre d'applaudissements pour Fiona et César. Incroyable. C'est la première fois qu'on a des scolaires, je crois, sur ce plateau. Ça fait super plaisir de vous avoir sur mon plateau, les amis. Fiona, toi, tu es collégienne en classe de 3e.
C'est ça.
Ici à Paris.
Oui, dans le 13e arrondissement.
Et tu viens d'où?
Je viens
D'ici, t'habites dans le coin, d'accord, ok.
Oui.
Et trop cool, Fiona, donc collégienne en classe de 3e. César, toi, tu es lycéen en terminale et tu viens de Vesoul.
Oui,
trop
pas
cool.
La porte d'à côté, mais...
ok, d'accord, trop bien. Tous les deux, donc, dans le cadre de l'éducation aux médias, je crois que vous avez... Alors c'est un peu méta, encore une fois, je vous ai dit hein, comme before, mais je crois que vous avez des questions à me poser. Sur comment on fait des médias, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Bah allez-y les gars, on est en direct, il n'y a aucun problème.
Bah ouais, on va un petit peu inverser les rôles. Donc déjà, merci infiniment de nous inviter sur ton plateau.
Merci beaucoup.
Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, Jean, parce que bon, j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu tes émissions, mais on ne se connaît pas forcément. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais et un peu en quoi ça consiste ce que tu fais sur Twitch?
Ce que je fais, je suis streamer, comme on dit, donc c'est un type de créateur de contenu où je diffuse en direct et de manière interactive. Et moi, ma spécialité, c'est de parler d'actualité politique et de faire de la vulgarisation, de la pédagogie sur l'actualité politique.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est le parcours professionnel que tu as pu faire pour en arriver là, j'ai envie de dire?
Alors, il n'y a pas de parcours type pour ce genre de truc parce qu'on n'est pas très nombreux à faire ça. Moi, j'ai fait des études de droit, donc rien à voir. J'ai fait des études de droit, j'ai eu un parcours d'engagement associatif quand j'étais lycéen et étudiant, pour l'éducation populaire, pour la jeunesse, pour l'éducation aux médias aussi en partie d'ailleurs. Et plus tard, après mes études de droit, je n'ai pas du tout fait des métiers de juriste, d'avocat ou de magistrat. Moi, je suis allé travailler en politique. J'ai été collaborateur de cabinet, donc j'ai fait partie des professionnels de la politique, où j'ai bossé pendant plusieurs années, du coup, donc je travaillais pour des maires, je travaillais à la mairie de Paris, je travaillais pour le gouvernement, je travaillais pour des collectivités locales. Donc voilà, ça a été ça mon parcours avant de me lancer sur Twitch en 2015, je crois.
Ouais. Et justement, comme ton parcours allait être quand même complètement différent de Twitch, comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment est-ce que tu en es arrivé justement à faire ça sur Twitch?
J'avais juste envie de le faire. Non mais en fait c'est un peu ça, c'est que moi je suis passionné de jeux vidéo, j'ai regardé des gens sur Twitch parler de jeux vidéo et interagir avec un chat, et je me suis rendu compte qu'ils arrivaient à faire passer quand même énormément d'informations, enfin ils arrivaient à rendre hyper vivant une émission hyper cool, et je me suis dit que ça pouvait bien matcher avec la politique, cette espèce d'ambiance et cette interaction. Donc c'est comme ça que j'ai eu... Mais tu vois, j'ai pas intellectualisé de créer un média. En fait, j'ai juste créé une chaîne Twitch parce que j'avais envie de créer une chaîne Twitch, simplement. Oui. Voilà.
D'accord, donc là, j'ai quelques questions à vous poser. Déjà encore, merci de nous avoir invités. Et pour commencer, quelles sont les thématiques de Backseat, en général?
Alors, Backseat, c'est un talk show d'actualité politique. Un talk show, c'est ça désigne le type d'émission où on est plusieurs en plateau et on discute les uns avec les autres. On n'est pas juste en un contre un en interview, par exemple. C'est pas qu'un plateau d'interview. C'est ça ce qu'on appelle un talk show. Il y a plein de séquences différentes. La thématique de Backseat, c'est l'actualité politique. Donc, on parle de l'actualité politique française, européenne et mondiale. En fonction de ce qui se passe dans le monde ou en France, on va adapter notre émission et on va discuter de ce qui se passe avec mes chroniqueurs et chroniqueuses.
Et pourquoi Twitch et YouTube au lieu de n'importe quelle chaîne de médias?
Parce que déjà, tu ne peux pas faire des émissions comme ça sur n'importe quel média, notamment à la télé, à la radio. En fait, il faut qu'ils t'acceptent. Alors que sur Internet, il y a quelque chose de très, très spontané où tout le monde peut créer sa chaîne Twitch, sa chaîne YouTube. Donc déjà, pour cette raison-là. Et ensuite, parce que YouTube et Twitch offrent une interaction avec le public qui est absolument unique et qui n'existe dans aucun autre média. Ce niveau-là et cette intégration-là du public dans la préparation de l'émission, dans l'ambiance de l'émission, dans la discussion en plateau, etc. Il y a que sur Twitch que tu l'as. Donc c'est pour ça, ouais.
Sinon, vous savez combien il y aurait d'auditeurs environ sur...
Vous êtes combien, les gens, là, dans le chat? Attends, bouge pas, je vais te dire. Je vais te dire, ils sont 2000. À l'heure où je te parle, ils sont 2000. Tu as deux manières de mesurer l'audience sur Twitch. Tu regardes le nombre de viewers, donc le nombre de spectateurs à l'instant T, et tu regardes le pic de ce nombre-là au cours de ton émission, ce qu'on appelle le pic de viewers, et c'est l'une des métriques qu'on regarde. Ça a été quoi la plus grande foule qu'on a eue devant nous pendant le concert, si tu veux? C'est à peu près ça l'idée. La deuxième métrique que tu peux regarder, c'est le nombre de visiteurs uniques sur toute l'émission, combien de personnes sont venues regarder au moins une fois l'émission, et ça peut être des dizaines de milliers.
Et dernière question, un public spécifique par rapport à vos émissions?
Backseat, en l'occurrence, c'est un public... alors, la dernière fois qu'on a fait une étude, c'est un public qui a 24-25 ans en moyenne. À mon avis, ils ont vieilli un peu depuis, donc ça doit être 25 ans. La moyenne d'âge du public, c'est un public qui est majoritairement composé de garçons, en tout cas sur Twitch. Sur les replays YouTube, j'ai pas d'informations. Et c'est des gens qui sont partout en France. Il n'y a pas vraiment de typologie géographique. On retrouve tous les foyers étudiants. On trouve Paris, Rennes, Lyon, Marseille. Mais on a aussi des jeunes en zone rurale. On a aussi des jeunes outre-mer. On a aussi des jeunes à l'étranger qui nous regardent. Donc voilà.
Et donc, quand on est arrivé, on a eu la chance de voir un petit peu toutes les équipes qui soutenaient le projet, qui soutenaient l'émission. Donc, pour nous ainsi qu'un peu pour les viewers, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'organise au niveau des équipes, au niveau de la production, comment est-ce que vous préparez un petit peu?
Alors, sur la production de Backseat, il y a deux équipes en fait qui bossent en parallèle. Tu as l'équipe éditoriale et l'équipe technique. Chacune s'occupe de sa partie. L'équipe éditoriale va travailler le fond de l'émission, ce dont on va parler, à quel moment on va en parler, quelles sont les questions qu'on va poser, quels sont les invités qu'on va recevoir, etc. Donc ça c'est François, le journaliste qui prépare l'émission avec nous. C'est mes deux coproducteurs et moi, Quentin, François et moi, qui sommes les trois coproducteurs de Backseat. Et avec François, on prépare éditorialement. Et les chroniqueurs et les chroniqueuses qui préparent l'émission avec nous, on fait une réunion édito le mercredi matin, en visio, où on cale les sujets dont on va parler dans l'émission, on cale les invités, on cale ce qu'on a envie de faire et tout. Ça, c'est toute la partie éditoriale. Et puis ensuite, il y a toute la partie technique. Et ça, la partie technique, elle est gérée par les équipes de Valentin, ici dans ses locaux, dans ses studios. Eux, ils s'occupent de la réalisation d'un point de vue, comment dire, technico-technique de l'émission, l'image, le son. Donc eux, ça commence le matin, le jeudi matin. Ils viennent ici monter le plateau. monter le studio, sortir les caméras, sortir les câbles, dérouler les câbles, tout brancher, allumer la régie, préparer la régie, etc. Faire tous les tests micro, les tests lumière, etc. Tu as dû en voir une partie tout à l'heure. Tu les as vus travailler. Et eux, c'est un compte à rebours énorme parce qu'ils doivent être absolument prêts à 19h au début de l'émission. Donc voilà.
Et sinon, comment vous choisissez vos invités ? C'est selon les sujets
Les invités politiques, c'est un savant mélange, c'est en fonction de l'actualité. Je veux toujours qu'on reçoive les politiques qui font l'actu au moment où l'actualité se passe. Donc c'est très difficile parce qu'on est en concurrence avec les autres médias qui eux aussi ont envie de les avoir. Et puis ensuite, on essaye d'avoir un équilibre, ne serait-ce qu'en termes de représentation politique sur le plateau. C'est pas toujours facile d'ailleurs, mais on essaye de s'astreindre à ça et de trouver des gens intéressants à interviewer chaque semaine, avec la difficulté qui est que comme on est une émission en direct, on peut pas décaler ni le lieu, ni le temps de l'émission. C'est forcément ici, dans le 20e arrondissement, à telle adresse, à telle heure, qu'il faut être. Et ça, parfois, c'est difficile pour certains politiques. Il y en a qui me disent « je ne suis pas dispo ce soir, je suis dispo demain, comment on fait ?» Ben, on ne peut pas en faire. Donc c'est quand on a une émission en direct, tu as un peu cette difficulté-là, quoi. Je crois qu'on arrive au bout de notre échange et des questions que vous aviez à me poser. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. J'espère que mes réponses vous ont aidé à comprendre un peu mieux comment on fait une émission, un média comme Backseat. On va continuer de parler d'éducation aux médias et à l'information. Et je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour nos invités suivants qui vont venir tous ensemble sur le plateau. Venez. Venez tous. Venez tous et installez-vous, chers amis, s'il vous plaît. Hop là, c'est pas grave.
C'est le direct,
tout va bien, il n'y a pas eu de mort. On est ensemble sur ce plateau avec François Saltiel. Cher François, merci d'être avec nous. Tu es journaliste, producteur à France Culture, journaliste assez médiatique, auteur très engagé sur la question de l'éducation aux médias.
Merci pour cette invitation, très heureux d'être ici.
Très cool que tu sois là avec nous, François. On est également avec Xavier Gillet. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Xavier, tu es formateur au Clémy, ancien enseignant en maternelle et tu es avec Mathilde. Bonjour Mathilde.
Bonjour Jean.
Merci d'être avec nous. Mathilde, tu es professeure documentaliste en Ariège, coordinatrice du Clémy pour l'Académie de Toulouse. Merci tous les trois d'être avec nous sur ce plateau. On parlait d'éducation aux médias, on vient d'en faire un tout petit peu sur le plateau ici de l'éducation aux médias. On parlait d'éducation aux médias. Je vais juste préciser qu'on a un invité supplémentaire qui est avec nous également, mais en visio, que je salue, c'est Gaëtan Berg. Bonjour Gaëtan, est-ce que tu m'entends ?
Oui, je t'entends Jean, bonjour.
Trop bien, salut Gaëtan, merci d'être avec nous. Gaëtan, toi tu es professeur documentaliste et tu fais de l'éducation aux médias sur Twitch.
C'est ça.
C'est trop de la balle.
Ben ouais, ben on va en parler.
On va en parler, exactement. Merci Gaëtan d'être avec nous. Je me tourne vers vous, François par exemple. Toi qui bosses dans le numérique, raconte-nous un peu l'éducation aux médias. Pourquoi est-ce que c'est plus important que jamais selon toi ?
Déjà, c'est super important d'entendre les jeunes. Je t'entendais toi tout à l'heure disant c'est la première fois qu'on accueille des scolaires. Et en fait, dans les médias, on n'accueille pas beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'universitaires, de chercheurs, de politiciens qui parlent des jeunes, qui parlent pour eux d'ailleurs. On dit les jeunes, ce qui veut concrètement rien dire. Il n'y a pas des jeunes, il y a une multiplicité de la jeunesse et des différentes situations. Et donc, l'importance de l'éducation aux médias, c'est déjà de montrer à un jeune public comment les médias fonctionnent, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la fabrication des médias, et puis surtout essayer de les accueillir dans les rédactions, parce que, et de leur tendre un micro, ce que tu as fait ce soir, et c'est pour ça que c'était super intéressant de vous entendre poser les questions, puisqu'on parle beaucoup des jeunes à leur place, et je pense que c'est important aujourd'hui qu'ils reprennent la parole, sinon on tombe sur beaucoup de clichés. Les jeunes ne sont pas politisés, les jeunes n'ont rien à dire, les jeunes sont plus idiots qu'aujourd'hui qu'hier, enfin bref, tout ce qu'on peut entendre comme stéréotype, et pour casser un peu tout ça, il faut donner la parole aux jeunes. Donc c'est deux fantasmes qui se brisent quelque part. Le fantasme que les jeunes peuvent avoir sur la fabrication des médias et un peu les gens qui sont à l'intérieur des médias qui pensent et qui ont des idées préconçues sur les jeunes. Donc bref, l'éducation aux médias, c'est une belle rencontre, une belle passerelle. Et quand tu dis pourquoi c'est important aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de faire lien. La société est très divisée, polarisée. Tu le traites beaucoup dans tes émissions, ouais, pour savoir des hommes et des femmes politiques. Donc si on peut arriver tous ensemble à se rencontrer, à dialoguer et à créer du lien, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez dans le public ? C'est bien ? Créer du lien, ouais.
Ouais. Non, c'est cool. Xavier, toi, tu travailles avec les tout-petits.
Ouais.
Au niveau maternel, comment on fait de l'éducation aux médias au niveau maternel ? Comment on sensibilise les tout-petits ?
Alors justement, on a l'impression que c'est impossible, c'est pas faisable, alors ça l'est tout à fait. Il faut savoir que Aujourd'hui, les enfants, ils sont soumis à Internet. Et leur première rencontre avec Internet, c'est 6 ans et 10 mois, en solo, aujourd'hui. 6 ans et 10 mois, donc là, on est à peine sorti de la maternelle, on est au CP, on apprend à peine à lire. En maternelle, on peut tout à fait apprendre à des élèves, à des petits, ce que c'est qu'une information, ce que c'est qu'un média. La difficulté, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un journal, par exemple. Donc, on va leur présenter l'objet journal. Alors, il y a de moins en moins de journaux papier dans les maisons, dans les foyers, de toute façon. Mais les élèves, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il faut partir, il faut essayer de chercher, de fouiller. Moi, je me souviens avoir travaillé avec ma classe et il n'y en avait aucun qui connaissait l'objet journal. Il n'en avait jamais vu. Il y en avait un parce que son papa, qui était turc, moi, je travaillais en éducation prioritaire. Et ah oui, l'âge que je vois, mon papa, il fait venir ça du pays. Hop, il est arrivé avec son journal, on est parti de ça. On a décortiqué le journal, il y a des dessins, il y a du texte, il y a des images. Et maintenant, on a la nature, on sait ce que c'est qu'un journal, on le reconnaît. Et à quoi ça sert? Et ça sert à informer. C'est quoi une information? Et après, c'est parti. On définit avec eux ce que c'est qu'une information. On va partir des choses qui sont proches d'eux. Typiquement, les sorties scolaires qui peuvent être organisées, ce qu'on va manger à la cantine, enfin, des petites informations à leur niveau. Et après, c'est parti, ils vont comprendre et ils peuvent produire à leur tour leur information.
C'est trop bien. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire de l'éducation aux médias de cette manière-là.
Ah oui,
et puis enfants si petits.
On peut faire de la radio, on peut faire des
premières... Oui, tu as raison.
Exactement.
Non, mais tu as raison. Mathilde, toi, tu travailles avec des élèves plus âgés, notamment au lycée. Au lycée, on rentre dans une éducation aux médias qui est une éducation plus politique, on va dire, sur le rapport aux médias, sur le financement des médias, sur l'indépendance des médias, etc. Comment ça se passe aujourd'hui, l'éducation aux médias au lycée?
Dans la continuité un petit peu de ce qui se passe dans le premier degré, l'objectif, tu vois, c'est de leur donner des outils pour apprendre à protéger leur vie privée déjà sur les plateformes, respecter les autres et développer l'esprit critique en produisant de l'information.
Mais c'est-à-dire que l'éducation aux médias ne se limite pas à l'éducation à la presse, la télé, la radio. Aussi toute la partie numérique, Internet, réseaux sociaux. C'est quoi une plateforme?
C'est ça. Tu as quatre grandes facettes au niveau de l'éducation aux médias et à l'information. Tu as la production d'informations, la recherche d'informations, le développement de l'esprit critique et puis l'utilisation de l'outil numérique et tout ce qui est citoyenneté et éthique. Et l'idée, comme le disait François tout à l'heure, c'est de leur faire rencontrer un maximum de professionnels de l'information pour qu'ils apprennent en fait à créer et voir comment se passe le circuit de l'information.
Non, c'est impressionnant. On n'avait pas ça, nous, François, quand on était... Les réseaux sociaux n'existaient pas encore,
C'est vrai que ça n'existait pas encore, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'une éducation aux médias sans passer par les réseaux sociaux, ça manquerait totalement son objectif. Oui, parce que de toute façon, même les médias traditionnels, comme tu le sais, ils sont sur les réseaux sociaux. Si on interroge les jeunes, la manière dont ils ont de s'informer, ça passe essentiellement par les réseaux. Donc, on est obligé d'essayer d'analyser, de décrypter, de décoder cet univers-là qui est beaucoup plus fragmenté aussi. Avant, c'était plus facile d'avoir des acteurs institutionnels, traditionnels. Donc, la nécessité de pouvoir repérer qu'est-ce qu'une info, qu'est-ce qu'une bonne info, qu'est-ce qu'une communication, qu'est-ce qu'une publicité, elle est encore plus importante aujourd'hui parce qu'on est tous submergés par des contenus numériques, parfois de très bonne qualité, comme Backseat par exemple, mais encore faut-il arriver à pouvoir les distinguer et surtout à savoir toujours cette même question, où est la source?
Gaëtan, toi aussi qui es avec nous en visio, tes étudiants, ils ont quel âge et ils s'informent comment?
Alors, nous, moi, je suis en collège. En REP+. Ouais. Nous, les collégiens, on travaille avec surtout le niveau 4e, parce que la presse est au programme en français en 4e. Et avec toute une classe, on s'est vite rendu compte que Twitch, et en tout cas les réseaux sociaux, étaient une source d'information importante pour nos jeunes, qui s'informaient. Certes, pas obligatoirement sur les sujets classiques que les adultes peuvent avoir, mais tout le domaine jeux vidéo, il y a plein d'autres trucs, les mangas, les livres, etc. Et ils avaient développé une expertise au travers de ces médias-là. Et donc nous, on s'est dit qu'il fallait donner du crédit à la manière dont les jeunes s'informaient. C'est pour ça qu'on a choisi Twitch. Voilà, c'était vraiment intéressant pour deux aspects vraiment pour nous. Un, il y a le live, la dimension live, un peu one shot, qui fédère toute une classe. Au niveau humain, c'est, je trouve, hyper important. On a des élèves, certaines fois, qui ne s'entendent pas au gardement très bien, mais dès qu'ils sont sur un live, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Chacun est à son poste, parce que tous nos élèves ont un rôle à jouer sur le live. Nous, on ne touche plus à rien durant le live. Et donc, ça fédère vraiment une classe autour de Twitch. Et après, la deuxième chose, c'est que Twitch nous permet d'avoir ce retour direct avec une communauté. Alors, elle est toute petite, hein, nous, elle est pas très grande, mais ça nous permet, voilà, d'avoir ce retour-là. Et c'est un média melting pot qui s'appelle Melting Pot Beuvrage, et c'est un média qui est réalisé par des jeunes pour des jeunes. Voilà, ils s'adressent à un public jeune. Donc, on est vraiment sur cet objectif-là chez nous, de rendre l'élève acteur de sa pratique médiatique et d'en faire des futurs citoyens capables de réfléchir et après de pouvoir raisonner, de faire leur choix eux-mêmes.
Xavier, quand on préparait cette émission, effectivement, tu nous as dit que toi, les élèves à qui tu travailles, la plupart ne savent pas du tout ce que c'est qu'un journal papier. Ouais. C'est une question de génération, c'est une question de pratique à la maison, c'est quoi ?
Bon, il y a un peu tout. Bah, il y a le fait, on le sait, de toute façon, la presse écrite.
Ah, tu me diras, moi, j'ai pas acheté un journal papier depuis.
Voilà. Je vais te dire, on en est tous conscients, il y a de moins en moins de journaux papier à la maison, de toute façon. Mais pour travailler avec les tout petits, on doit passer par là, parce qu'ils ont besoin de manipuler, de toucher, de connaître l'objet avant d'ensuite aborder. Là, on peut ensuite travailler avec la radio, avec la télé. Mais on a besoin de passer par l'objet au départ. Donc, on va en trouver un. Hein. C'est pour ça que je parlais de l'élève d'origine turque, là, qui nous a bien aidé sur le coup. Et c'est lui qui nous a permis de lancer la séance dont je te parlais tout à l'heure. Après, ils vont eux-mêmes, enfin, ils vont développer leur esprit critique, on en parlait tout à l'heure. C'est pas compliqué, en fait. Ils vont comprendre ce que c'est qu'une information. On a des petits supports au Clémy qu'on propose, des petites vidéos qui leur permettent de comprendre qu'une information, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de monde, et surtout, c'est quelque chose qui est vérifié. Voilà. Une fois qu'ils ont intégré ça, on leur soumet des propositions, ils vont identifier ce qu'est une information, ils vont la différencier d'une rumeur, d'une anecdote. Voilà, ça c'est hyper important, d'une pub, si on parlait tout à l'heure. Ça c'est hyper important. Et ensuite, ils vont être capables de faire la distinction entre une bonne information et une fausse information. Et ça c'est hyper important parce que à 8, 9, 10 ans, quand ils auront fini l'école primaire, qu'ils vont arriver au collège, vous voyez, il y a une bascule parce que le collège, c'est là où souvent on fait l'acquisition du premier smartphone perso. Là, s'ils sont déjà équipés pour par rapport à tout ça, c'est un gros plus.
Mathilde, l'intelligence artificielle, l'usage de l'intelligence artificielle, est-ce que ça change la manière qu'on a d'enseigner ? Alors, y compris l'éducation aux médias, je veux dire l'éducation de l'IA justement elle-même.
C'est un nouvel enjeu en fait, l'IA, tu vois, pour l'EMI. C'est une révolution.
L'EMI, c'est l'éducation aux médias et à l'information.
Ouais, pour l'éducation aux médias et à l'information, ça ouvre des champs des possibles, mais en fait, la problématique reste la même. On éduque à développer l'esprit critique. Hein, et donc, du coup, quand les élèves utilisent l'intelligence artificielle, l'idée, c'est toujours de croiser les informations et d'aller plus loin de ce que peut leur donner comme information une IA générative, par exemple. Hein.
Mais sur l'IA, il y a un truc quand même super intéressant. C'est le temps technologique qui va très vite. C'est-à-dire que tu vois, l'IA générative, c'est 2022, il y a encore donc 3 ans, on n'en parlait même pas. Et donc l'éducation aux médias, par définition, c'est un temps long d'apprentissage. Et c'est toute la difficulté pour les enseignants, pour les coordinateurs, puis même pour nous tous, citoyens, d'arriver à se mettre, tu vois, dans le même niveau de compréhension d'un temps technologique qui va très vite. Avec en plus une rhétorique qui est toujours la même, c'est révolutionnaire, ça va changer votre vie, c'est un progrès, tu vois, avec quelque chose qui est toujours forcément très positif et puis avec beaucoup d'engagements commerciaux derrière. Et donc, c'est comment tout de suite arriver à casser ce temps-là, à ralentir ce moment-là pour comprendre ce qui est en train de se jouer autour de nous. Donc là, je pense qu'il y a des enjeux de formation aussi des enseignants, de compréhension et puis de réciprocité. Parce que souvent, c'est parfois les élèves qui te disent avant toi quel est le truc à la mode, tu vois, quel est le trend, quelle est la tendance, quel est l'outil. Et enfin, je sais pas si c'est le cas, mais parfois, j'imagine que vous avez découvert des trucs parce que c'est les élèves qui vous sont saisis d'un objet ou qui vous ont appris quelque chose. Donc ça, c'est super intéressant parce que l'éducation, on sait que c'est une réciprocité. On transmet du savoir et puis aussi, on comprend des choses grâce à l'élève.
Gaëtan, toi, tes étudiants, tes lycéens, ils en tirent quoi de cette éducation aux médias que tu fais avec eux ?
Les collégiens, alors nous, c'est des collégiens.
Des collégiens, pardon, excuse-moi.
Alors, nous, je vais distinguer deux aspects. Il y a le côté éducation aux médias et à l'information. Le fait de concevoir un contenu avec de l'information à l'intérieur, sans passer obligatoirement par la case qu'est-ce que c'est un bon contenu ou un mauvais contenu. Nous, on veut les faire produire, Et quand ils vont être dans le questionnement de leur reportage, on va apporter les différents éléments pour qu'ils soient dans une bonne démarche. Donc voilà. Et après, le second point, c'est l'humain. Nos élèves, quand ils sortent de notre classe média, on veut qu'ils soient fiers. On a énormément d'élèves qui étaient très timides, qui n'étaient pas obligatoirement très, très à l'aise non plus avec leur image. Quand on passe sur un live, on s'expose. On doit aussi, il y a tout un travail par rapport à l'estime de soi. Et donc, notre objectif, c'est au-delà de l'EMI, c'est de leur donner confiance pour la suite et qu'ils soient à l'aise dans leur scolarité, mais aussi en tant que citoyens, et qu'ils se disent qu'ils ont des choses à dire dans l'espace public et qu'ils vont avoir après les arguments. Comme ils ont développé leurs arguments dans leur reportage ou sur le plateau, ben ils pourront les avoir également dans la vie de tous les jours.
Et vous, Xavier et Mathilde, vous les voyez progresser comment, vos élèves ?
Ah ben ça va très vite. Ouais. Ça va très vite. Pour reprendre ce que vient de dire Gaëtan à l'instant, sur la prise de confiance, moi j'ai un exemple mais qui est typique. Une petite fille que j'ai eue toute l'année en moyenne section, qui a dû me parler 30 fois dans l'année. Une taiseuse absolue. Mmh. L'année suivante, elle est passée en grande section, on a mené un projet web radio avec une collègue, et là, c'était parti. Alors, on lui a mis un micro sous le nez, elle s'est ouverte parce que l'activité était hyper attractive, hyper enrichissante pour elle. Et donc, voilà, elle a pris confiance en elle. Et en maternelle, on en parle beaucoup, le développement du langage, c'est un enjeu à cet âge-là. Donc là, ça lui a permis de progresser à vitesse grand V. J'ai d'autres exemples avec des élèves un peu plus âgés. En CE1, à 7 ans, on leur a fait mener un projet où ils devaient aller vérifier l'origine d'une image. Sans aucun contexte, ils devaient aller faire des hypothèses sur Internet, faire des recherches inversées pour aller retrouver la source. Et ben, ces élèves-là, moi je suis toujours en contact avec l'enseignante avec laquelle on a mené le projet, ils ont pris le pli. C'est-à-dire que maintenant, ils ont pris l'habitude, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive sous leurs yeux et qui éveille chez eux un petit doute, un petit soupçon, parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas douter de tout, il faut douter quand il y a une matière à douter, et ben, ils ont pris le pli d'aller évaluer l'information. Ils vont aller voir, ils vont faire une petite recherche pour voir si ce qu'on leur dit est vrai et authentique.
C'est trop bien, bravo. Mathilde, toi, tu les vois aussi progresser, évoluer ?
Ouais, je rejoins Gaëtan et Xavier. En fait, quand tu les mets en situation de projet, quand ils créent en fait du contenu médiatique, hein, tu vois, pour les élèves qui sont pas scolaires et qui ont des difficultés, et bien en fait, leur estime de soi, ils prennent confiance en eux. Parce qu'ils travaillent autrement, ils sont acteurs en fait dans cette production, et même au niveau du climat scolaire de la classe, hein, tu vois, quand tu les mets en situation de production, ben il y a de l'entraide, il y a de la coopération, et c'est positif sur le climat scolaire.
Trop bien. Non, mais c'est incroyable. Bravo pour ce que vous faites. En tout cas, bravo à toi aussi, Gaëtan. Les élèves avec qui on était tout à l'heure, chers amis, est-ce que vous... je crois que vous avez lu le chat pendant cet échange.
Oui.
Vous avez retiré des choses intéressantes ou pas ?
Bah pour le moment.
Pas obligatoire. Hein.
Ouais, pour le moment pas trop parce que j'ai vu que beaucoup...
le chat est nul. Voilà.
Le chat est à chier. Voilà,
aucune bonne question. Bravo.
Non mais voilà, j'imagine que certains arrivent en retard, donc ils sont un petit peu en train de comprendre que nous sommes là aussi en tant que jeunes pour un peu représenter, comme vous avez pu le dire, un peu la voix des jeunes, qui parfois n'est pas trop représentée, qui est plus prise pour de la récupération politique, on va dire.
Ouais, ça, vous avez cette impression-là, effectivement, qu'on parle à votre place ?
Parfois, même très souvent, enfin personnellement en tout cas, très souvent, je sais pas si c'est aussi ton cas.
Et notamment dans les médias.
Oui.
Oui.
Ouais, ok.
Je crois que c'est ça vraiment le truc de l'éducation média qui est super intéressant. Mais ce que vous avez dit aussi, c'est de passer de spectateur à acteur. Mmh, et en fait, d'arriver l'espace d'un instant à se dire que j'ai quelque chose à dire et on me donne la possibilité de le faire. Parce que cet outil, il fait peur. Une caméra, ça fait peur. Un micro, ça peut faire peur. Même un journal, on n'en parle plus. Mais ça peut faire peur de se dire, je suis dans le journal, comment on fait pour écrire ? Donc je pense que tout l'enjeu de l'éducation média, c'est d'arriver à pas se sentir complexé à l'idée de se saisir de cet outil. Sentiment d'imposture aussi, parfois, de se dire est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire ? Et en fait, évidemment que vous avez des choses à dire. Et c'est ça qui est beau, et c'est pour ça quand tu disais qu'il y avait des élèves parfois un peu timides, mais qui se révélaient quand on leur tendait justement un micro. Et donc ce passage de spectateur, consommateur à acteur, producteur, quand l'éducation aux médias se passe et qu'elle est réussie, voilà, c'est la plus belle des satisfactions.
Parce qu'il est là l'enjeu, en fait.
Ouais.
C'est les amener à produire de l'info. C'est en produisant qu'on apprend à la manipuler, à la comprendre, à l'apprivoiser. Nous, on parlait de la semaine de la presse et des médias dans l'école tout à l'heure. C'est souvent les enseignants, ils commencent à faire de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information, pendant cette semaine de la presse. Et ben, ils vont y rester parce qu'ils vont s'apercevoir que c'est hyper attractif, hyper engageant pour les élèves. Et voilà, c'est parti, ça va amener à des nouveaux projets, des journaux scolaires, des web radios scolaires, des web TV scolaires. Et ben, ils vont, voilà ce que tu disais, ils vont devenir acteurs et pas non plus, et pas uniquement récepteurs ou... De l'information.
Alors parlons-en de cette semaine de la presse et des médias dans l'école qui aura lieu à la fin du mois de mars, 23 ou 29 mars je crois. Toutes les informations sont évidemment à trouver sur le site du Clémy. Pour les profs qui nous écoutent là et qui connaissaient pas ou qui ont vaguement entendu parler, etc., qu'est-ce qu'on peut y faire, à quoi ça sert de s'inscrire, Mathilde?
Bien, ça donne l'accès à des ressources gratuites, des accès à l'information, tu vois. Et le Clémy met en place aussi des webinaires pour rencontrer des professionnels. Et puis après, dans toute la France, en fait, les coordonnateurs du Clémy permettent de favoriser en fait la rencontre entre les professionnels de l'information ou organise des visites pour des classes dans des salles de rédaction.
D'accord.
Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on accompagne tous les enseignants, tu vois. On met en place des formations pour les enseignants, par exemple pour créer une web radio ou pour comprendre le circuit de l'information dans l'audiovisuel, par exemple.
Ok, d'accord. Quel conseil tu pourrais donner à des enseignants qui hésiteraient, Xavier, à s'inscrire?
Alors, le premier conseil, c'est déjà de se dire que ce n'est pas du boulot en plus, c'est du boulot fait différemment. Et ça, c'est hyper important parce que l'EMI, elle a un énorme atout, c'est qu'elle est transversale. Alors ça, c'est un terme d'enseignant, mais ça veut dire qu'en gros, quand on va faire de l'EMI, on va travailler plein d'autres disciplines. En même temps, je parlais de la petite fille qui s'était décoincée au niveau du langage tout à l'heure. Ben voilà, en maternelle, c'est un enjeu important. Mais en éducation, médias et l'information, on va travailler ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique. On va parler de liberté d'expression. On peut travailler en histoire géo, on peut travailler en maths, on peut travailler en sport. L'année dernière, on a produit plein de ressources parce qu'il y avait les géos à Paris, autour du commentaire sportif. Et on sait qu'on a plein de profs de PS qui se sont emparés de cette ressource-là par le Clémy. Donc, et encore une fois, on s'aperçoit que c'est extrêmement enrichissant pour les élèves. Donc, il n'y a pas de point négatif. On travaille différemment, on travaille plein de choses en classe lorsqu'on fait de l'EMI. Et puis, ça crée aussi une solidarité dans la classe. Tu parlais du climat scolaire tout à l'heure, Mathilde. C'est ça aussi. Les gamins, ils travaillent ensemble. Ouais. Ils ont un objectif commun qui va les motiver.
François, toi, tu as créé une association d'éducation aux médias.
Ouais, on était plusieurs, deux en l'occurrence, effectivement, qui s'appelait Cheeky Productions, où pendant des années, on a organisé un festival de projection de films pour enfants, et à côté de ces films, il y avait aussi des ateliers de fabrication, des ateliers où on fabriquait un journal, où on réalisait un petit court-métrage, où on faisait aussi des émissions de radio, où on apprenait aux élèves à faire de la critique de cinéma, avec donc toujours cette même idée de mettre les moyens à disposition, de participer aussi à un recollectif, parce que je regardais justement les élèves que j'ai en face de moi qui ont l'air d'être assez intéressés par l'éducation média. C'est qu'après, du coup, nous, on avait des gens au Cheeky. Ce festival, il a été monté avec Virginie Sassoon pendant 10 ans. Et bien, on avait des enfants qui arrivaient comme festivaliers. Et puis, 6 ans plus tard, c'était eux qui étaient les animateurs et qui participaient à l'animation d'un atelier. Donc, il y a aussi comme ça un effet rebond hyper intéressant sur l'éducation aux médias. C'est quand on comprend, quand on a été l'objet, le récepteur justement de passion de professeurs, parce que ce qu'on n'a pas beaucoup dit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de passion aussi qui irrigue justement ces projets-là. Les enseignants qui se lancent dans ces ateliers, c'est aussi la passion qui les guide, l'envie de transmettre, parce que c'est pas forcément une obligation, ils prennent ça quand même sur leur temps, il faut avoir de l'ingéniosité pour monter des projets. Et justement, cette passion, quand tu la reçois, souvent, y a un effet positif, c'est que tu as envie de la transmettre derrière.
Gaëtan, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire à tes collègues enseignants sur la nécessité, l'utilité de s'inscrire et de faire quelque chose autour de l'éducation aux médias pendant cette semaine?
Ouais, je trouve que c'est un moment fort, comme ont pu le dire les collègues. On a énormément de ressources mises à disposition qui habituellement sont mises à disposition de manière gratuite et habituellement c'est payant. Donc c'est vraiment l'opportunité. Il y a quand même énormément aussi de ressources de séquences pédagogiques. Et après, on a aussi énormément de professionnels qui se mettent à disposition. Alors, petit bémol, en tout cas moi, à l'heure actuelle, je suis dans le Nord. Et on a beaucoup de professionnels, surtout sur les métropoles. Dans les secteurs un peu plus éloignés des métropoles, c'est un peu plus difficile quand même d'avoir des journalistes, parce que tout simplement, il y a aussi une question de timing. Ils peuvent pas être partout. Mais je trouve important de se rapprocher de tous les médias locaux, mais aussi de faire appel à certains médias un peu hors zone. Ça peut être des médias associatifs, ça peut être la petite radio locale, des choses comme ça. Et voilà. Mais c'est vraiment un moment clé qui doit lancer quelque chose pour l'année. C'est pas parce que la semaine de la presse s'arrête le vendredi que tout s'arrête. C'est surtout l'occasion de lancer un projet. Moi, j'ai commencé la classe média grâce à la semaine de la presse. Et ça fait maintenant 7 ans qu'on réalise des lives sur Twitch. Et donc, on s'est lancé grâce à ça, parce qu'on a été accompagné à ce moment-là par un journaliste.
Trop bien.
Donc, il faut profiter de ça pour vraiment avoir un tremplin, quoi.
D'accord, ok. On va continuer. François, tu vas laisser ta place sur ce plateau. Merci beaucoup,
merci
François Salciel, d'être venu sur le plateau de Backseat. Tu vas laisser ta place à Serge Barbet, le directeur du Clémy, mesdames et messieurs. Serge, tu es le directeur du Clémy, ce centre pour l'éducation aux médias et à l'information à l'éducation nationale. Comment vas-tu, Serge ?
Bah, super, en pleine forme.
Cool, merci d'être avec nous. Raconte-nous cette semaine de la presse et des médias, en quoi c'est important pour toi ?
Bah, c'est le temps fort dans l'année, c'est une grande fête de l'information et c'est une grande fête de l'information qui part de l'école. Les enseignants sont mobilisés toute l'année, on a eu des témoignages qui sont tout à fait extraordinaires. Nous avons à nos côtés les professionnels de l'information et des médias qui ces dernières années démultiplient également les efforts pour accompagner les enseignants parce que l'enjeu est un enjeu de démocratie et donc la semaine de la presse et des médias dans l'école qui a 36 ans est devenue un rendez-vous démocratique incontournable et notre envie, c'est d'en faire vraiment une grande fête de l'information partout.
J'ai entendu notre Premier ministre avoir des mots très durs sur le numérique à l'école. Le numérique pour les enfants face à l'écriture à la main qui pour lui est meilleure, etc. Je ne te demande pas de répondre au Premier ministre, évidemment. C'est pas ton rôle, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire progresser aussi sur la méthode et les différents médiums qu'on peut utiliser, y compris à l'école?
Mais j'ai envie de dire que c'est notre rôle à tous de répondre au Premier ministre sur la façon dont notre pays doit appréhender ce sujet de l'accès au numérique et notamment de la question des technologies numériques de l'information. Parce que dans une démocratie, l'information, c'est central. Et donc, si on peut parler de ce sujet, c'est évidemment dès l'école, et que nous observons ici et là, à travers le monde, des stratégies qui peuvent être différentes face à des mastodontes que sont les réseaux sociaux numériques, notamment, et les plateformes. Donc, on voit bien que l'enjeu est politique, qu'il y a une tension dans nos sociétés, que l'enjeu touche à nos libertés, liberté de s'informer, d'accéder à une pluralité d'opinions, de points de vue, de traitement de l'information. Donc l'enjeu, il est central. Donc moi, je veux bien répondre au Premier ministre en disant « Aidez-nous à développer l'éducation aux médias et l'information. Développons, allons encore plus loin et sachons apprécier qu'en France, nous avons certainement pris ces dernières années un petit peu d'avance, même si ça n'est pas suffisant. »
Je me permettrais même de compléter en disant que c'est aussi la question du rôle de l'école. L'école est là pour former des citoyennes et des citoyens, des penseurs libres, des penseurs et des penseuses libres. On ne peut pas fermer l'école en vase clos à l'univers qui l'entoure. Au contraire, il faut même plutôt l'ouvrir en faisant rentrer les médias et expliquer aux enfants, aux élèves, comment ça marche un média. Il n'y a rien de sorcier, ça s'explique, il y a des manières de faire. C'est quelque chose d'extrêmement important. Xavier, tu es d'accord ?
Ah bah complètement. Il faut inciter, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'esprit critique, et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Encore une fois, dès qu'un élève est en capacité de faire le tri entre la fausse information et la vraie information, qu'il est en capacité de comprendre les grands principes, les grands enjeux, la liberté d'expression, il y a des tas de choses qui sont déjà gagnées.
Absolument. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Serge, de cette semaine de la presse et des médias dans l'école cette année ?
Bah, de grandes questions autour de ce thème qui est génial finalement, parce que où est l'info dans des sociétés qu'on dit de l'infobésité, où l'info est partout sur nos écrans, c'est une question fondamentale et donc on va travailler un petit peu comme sur ce dessin de Où est Charlie qu'on connaît tous. L'info, elle est un peu comme ce petit personnage noyé dans une masse protéiforme et donc apprendre à s'informer aujourd'hui, ça va être central dans une année 2025 qu'on nous annonce et on l'a vu débuter sur les chapeaux de roue avec ce sujet sujet de la désinformation, de la mésinformation qui occupe tous les espaces. Donc je crois que ça va être une édition, et on a l'habitude au Clémy, qui va être intense. Donc c'est le thème qui est central, c'est le thème qui est fondamental, et puis cette question des IA génératives qui vient bousculer effectivement le monde de l'info, et donc on est actuellement très mobilisé sur ces enjeux-là. Donc on attend une grosse édition.
Dernière question très pratico-pratique. Je suis enseignante, je suis enseignant, je t'ai écouté, je suis convaincu, qu'est-ce que je fais ?
Eh bien, je m'inscris. Il reste un petit peu de temps pour aller sur le site du Clémy, s'inscrire, parler avec vos collègues, parler avec vos entourages. Et si vous n'êtes pas professeur ou enseignant, que vous êtes dans le public, parlez-en autour de vous. Parlez-en, si vous êtes parent, avec les enseignants, en disant qu'est-ce que vous avez prévu sur ce terrain-là. Voilà, parlez-en dans vos familles, dans vos repas. Parlez-en entre adultes et enfants, parce que c'est fondamental d'en parler à la maison, puisque l'éducation aux médias et l'information, ça concerne les plus jeunes et ça concerne aussi les plus vieux.
Merci beaucoup Serge, directeur du Clémy. Je le disais, la parole aux jeunes pour conclure. Ça va toujours ?
Oui, très bien.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, pour cette édition de la Semaine des médias dans l'école ?
Par exemple, dans mon collège, que la classe média continue et que... Ouais. Ça grandit encore plus.
On te le souhaite, on le souhaite à ton collège, on souhaite à tous les collèges de France d'ailleurs d'avoir une classe média pour ceux qui ne l'ont pas encore.
Très intéressant.
Ah ouais, c'est trop de la balle. Et toi ?
J'espère que, comme a pu le dire Gaëtan, la semaine de la presse, ce ne sera pas que anecdotique. C'est-à-dire que vraiment, après ça, ça puisse déboucher sur un apprentissage aux médias qui va vraiment être profond, qui va être long et qui va permettre que nos générations, qui vont grandir vraiment dans une société où le numérique va vraiment être omniprésent, où on le voit par exemple dans les élections présidentielles, législatives, quoi qu'il arrive, dans le monde de la politique, les réseaux sociaux, l'information, c'est vraiment une clé essentielle des enjeux qui sont politiques, qui sont hyper importants, que nous, les générations qui sommes très jeunes, qui vont représenter l'avenir, puissent être bien armées, puissent avoir assez d'esprit critique et puissent partir un petit peu... j'ai envie de dire la tête libre pour pouvoir affronter un petit peu tous ces dangers.
Trop bien dit, trop bien dit, merci beaucoup Fiona, César, merci beaucoup également à Xavier, Mathilde, François, Gaëtan et Serge d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup au Clémy, le centre de l'éducation médiatique.